Pop-Pien, Pop-Pien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, une émission qui va vous permettre de faire un peu d'exercice au potentiomètre de vos postes de radio. Oubliez l'écoute discrète, ouatée et confortable, à laquelle vous vous êtes habitué pendant des années dans cette tranche horaire France-Interienne, traditionnellement dévolue à la musique classique et à la diffusion des 4 saisons de Vivaldi, dont je rappelle au passage qu'il ne s'agit pas seulement d'une pizza, mais également de 4 concertos pour violon, dont vous avez forcément entendu quelques mesures si vous avez un jour tenté de joindre la sécurité sociale. Oui, oubliez l'écoute mode confort et montez le son. Aujourd'hui, nous recevons celui dont le système auditif a été préempté par la faculté pour être prélevé post-mortem afin de servir de sujet de thèse aux futures générations d'otorino. Celui qui, depuis l'âge de 13 ans et son épiphanie stonienne, fait tout à fond, vivre, écouter et plein d'autres choses encore moins recommandables. Celui qui incarne l'excellence et dans excellence, n'oublions pas qu'il y a excès de la rock critique. Celui dont la passion pour cette musique et ceux qui la font n'a pas plus faibli que sa libido, si l'on en croit sa récente et tardive paternité. Celui enfin dont la vie rock'n'rollienne est si romanesque qu'il n'a même pas eu besoin d'en faire un roman, mais simplement de se contenter de la raconter avec cet enthousiasme intact qui le caractérise. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, boys and girls, et tous les autres aussi, Philippe Manœuvre est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui a opté pour une petite paire de demi-lunes avec une chaîne incorporée pour ne surtout pas les perdre, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour, Antoine. Bonjour,
au menu de Pop Pop Pop, un homme que nous recevons sans ses lunettes noires. Oui, c'est une exclue mondiale pour Pop 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 et ça mérite un jingle. Breaking Pop 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 News. Bonjour Philippe Manœuvre.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
En réalité, si je dis que vous n'avez pas de lunettes, c'est juste pour inciter nos auditeurs à aller sur franceinter.fr pour vérifier si ce que je dis est vrai. Mais comme c'est faux, c'est juste pour faire un peu de ramdam, comme disent les millennials. Bienvenue dans Pop 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 et bienvenue à un autre enfant du rock. Ça a changé France Inter depuis cette période.
Salut kids, vous écoutiez les grandes manœuvres, vous êtes toujours sur France Inter. Malheureusement, il est déjà 2h du matin.
Ça a changé beaucoup.
Oh là là, à l'époque, une vision incroyable. L'émission s'arrêtait et ensuite il y avait Macha Béranger qui parlait aux auditeurs.
Bonsoir.
Et voilà, avec sa voix caverneuse. Et elle avait un ami qui était là, qui la regardait officier. C'était Louis de Funès. Elle avait, ils sont disparus tous les deux, on peut le dire. Louis de Funès venait tous les soirs.
Louis de Funès est mort.
Oui, je vous le dis, Antoine, Louis de Funès est mort. Et Louis de Funès était là, dans le studio, à côté du producteur. Il était assis sur une chaise en hauteur et il vivait littéralement quand un auditeur téléphonait. Il faisait « Oh là, oh, oh !» Mais c'était un film. Enfin, voilà, je me souviens de ça avec France Inter. Quoi. J'ai rencontré Louis de Funès grâce à France Inter.
Et c'était dans les années 80 et une émission dans laquelle vous parliez de... de rock, bien sûr. Et le rock, nous allons y plonger dans un instant avec votre autobiographie intitulée non pas Tcha-Tcha-Tcha, non pas Pas au Double, mais Rock. Mais oui, Philippe Manœuvre, ici, il existe une question qui peut faire encore plus mal qu'un stage diving raté. Oh ! Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture, Philippe Manœuvre ?
Oh là là, drôle de question, hein. C'est très. Vous avez pas un petit exemple à me faire écouter?
Alors attendez, pour être tout à fait honnête,
là, c'est tellement énorme.
Attendez. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle de votre ami Bertrand Burgala.
La pop culture, pour moi, c'est une culture commerciale dans laquelle on peut essayer de faire des trucs bien. Et donc, c'est une culture qui a été faite, qui a été créée. Je ne sais pas, à Hollywood, par des gens qui n'étaient pas toujours des saints, qui voulaient souvent le pouvoir, l'argent, enfin, et pas que. Et peut-être qu'ils se gargarisaient moins que d'autres, des grands noms de culture, etc., d'académisme, mais ils ont fait des films formidables, des disques géniaux.
Moi, la pop culture, c'est une bonne version, hein. Il a raison, Burgala. Pour moi, la pop culture, j'ai envie de vous dire, c'est les poubelles de l'Amérique. C'est tout ce que les Américains essayent de faire, qui ratent qui réussissent parfois. Mais enfin, c'est des trucs affligeants, généralement. Ouais. Après, je pense à des jouets en plastique, je pense à tout ce quand on fait les vide-greniers, qu'on voit ce qui reste de la pop culture, tous ces disques de Claude François, de Dalida et des Charlots, tu te dis, mais combien ils en ont vendu, les Charlots, en France? Il y en a des millions de disques qui sont là à donner, quoi. Les Barbie, les vieilles Barbie, les jeux vidéo d'avant-hier. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui commencent des collections de vieux jeux vidéo. Ils sont fascinés par l'histoire. C'est une histoire très récente qui n'a que 20 ans. Si vous allez chez Cash Converter, là où il y avait les disques vinyles à revendre, maintenant, il y a les vieux jeux vidéo. Enfin, c'est la pop culture, pour moi, c'est un peu...
C'est le recyclage plutôt qu'à Google.
C'est un recyclage, c'est tout ce qui reste, tout ce qu'on va réutiliser, réemprunter.
Très bien, moi ça me convient parfaitement. Voilà. Charline, vous avez une idée? Ça nous convient tous les deux. Donc Philippe Manœuvre, on va parler de pop, de culture, de pop culture, juste après le dernier morceau du groupe de pop rock américain que j'adore en ce moment. Et vous aussi je crois, Lemon Twigs.
Ah bah oui.
Pas mal, hein?
Sensationnel petit duo, deux frères, récemment deux frères très 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 talentueux.
De rock'n'folk, c'était il y a quelques mois. Bien, on écoute Small Victory. Small Victory, cet extrait de l'album Go to School du groupe américain Lemon Twigs. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du Wikipédia du rock. Mais qui est-il? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Philippe, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Problème de démarrage, j'ai l'impression.
Non, mais c'est parti, c'est bon.
Chercher à savoir ce qui se cache derrière les lunettes de Philippe Manœuvre, c'est un peu comme vouloir connaître le contenu de la valise de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Je comprends la curiosité, mais je peux pas m'empêcher de penser que le savoir, ce serait un peu gâché. Je suis du genre à me contenter de ce que la légende raconte, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, la légende se raconte. On connaît le rock critique, le Red Chef, musique ou BD, l'homme de radio, ciné avec option science-fiction, rock encore, toujours, idem pour la télé, avec une incursion dans le monde des télécrochets en devenant jury de la Nouvelle Star. Aventure, en ce qui me concerne, suivie avec la même gourmandise que toutes les histoires avec lesquelles il nous avait régalé jusque-là. Il y avait juste moins de Keith, Diggy et de Mick, et plus d'Icard, de Benjamin, d'Amandine et de Soane. On connaît même l'homme qui doubla l'extraterrestre, lui-même doublé en VO par Seth Rogen dans Paul. Alors me direz-vous, qu'est-ce que Philman livre de plus dans Rock, ma vie est un roman? Et encore une fois, moult histoire folle, drôle, définitivement rocambolesque. Rocambolesque, vous l'avez, c'est comme un peu un jeu de mots.
C'est drôle.
Et qui force aussi l'admiration. Quand même Hubert Selby Junior, je dois dire que ça c'est dans mon panthéon. Alors moi je vous le dis, contrairement à une maison concurrente et néanmoins amie, j'ai vraiment pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la valise. Vous l'avez aussi. Je me contente de ce que Philippe Manœuvre dit.
Pas mal. Et attendez, pour être tout à fait complet, vous étiez également Émilie Labroux, oui. Une journaliste féminine qui écrivait pour le magazine Ah Nana, la version girly de Métal Hurlant.
Oui.
À quoi elle ressemblait, cette Émilie?
Elle me ressemblait beaucoup. Voilà, je me mettais sur... À l'époque, on n'arrivait pas à trouver une journaliste féministe. Enfin, il y en avait deux à Paris. Elles étaient déjà cooptées par des très grands journaux. Donc moi, j'ai dit, je vais vous faire vos articles féministes, pas de problème. on sort des bouquins bondage. Moi, je vais faire un article anti-bondage. C'est affreux le bondage. Je mettais mes sœurs à peu près toutes les quatre lignes pour être sûr qu'on comprenne bien que c'était une femme qui parlait aux femmes. Je signais à Émilie Labroux. Je m'énervais contre ce pornocrate de Jean-Pierre Dionnet, qui était mon éditeur.
Oui.
C'est un scandale.
Ne parlons pas de lui, je vous en supplie.
Arrêtons-le. Voilà, et je faisais mes petits articles. Mais le journal n'a tenu que 7 numéros. Donc j'ai pas eu le temps de. Peut-être que j'avais une carrière de journaliste féministe formidable au lieu d'être critique.
Ou de romancière. Pourquoi pas? Bon, écoutez, on commence à comprendre que vous avez une personnalité trouble, mais qui êtes-vous vraiment? Passons à votre pop list.
Ok.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur l'Odyssée d'Homère. Charline, oui. Vous qui, telle Pénélope, attendez chaque soir le retour de votre héros dans votre F3 du 11e arrondissement, en dédaignant tous les prétendants et qui se bousculent à votre porte. Deux mots de ce livre magique entre tous.
L'Odyssée raconte le retour chez lui du héros Ulysse après la guerre de Troie dans laquelle il a joué un rôle déterminant. M'est avis qu'il a dû emprunter les voies sur berge pour rentrer parce qu'il met quand même 10 ans à revenir dans son île d'Ithaque, merci à Hidalgo, pour y retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque.
Philippe, auriez-vous la bonté d'en lire un extrait, s'il vous plaît?
Mais avec plaisir, Antoine. Mais la fille de Zeus, Hélène, soudain jeta une drogue à l'amphore où on puisait à boire. Cette drogue, calmant la douleur, la colère, dissolvait tous les maux. Une dose empêchait tout le jour quiconque en avait bu de verser une larme, quand bien même il aurait perdu ses pères et mères, quand de ses propres yeux il aurait devant lui vu tomber sous le bronze un frère, un fils aimé.
On sent que vous avez l'habitude de lire l'Odyssée à voix haute.
Alors voilà, Antoine, vous avez parlé de ma progéniture. J'ai effectivement un fils de 6 ans que j'ai appelé Ulysse. Et souvent, le soir, je lui lis des petits bouts de l'Odyssée. Souvent, il aime bien le passage avec le Cyclope. Alors là, ça, c'est que le Cyclope, Polyphème, et puis Ulysse qui a dit « Moi, je m'appelle Personne », qui a réussi à se sauver. Le Cyclope prévient tout le monde en disant « J'ai été attaqué par Personne, on m'a crevé, c'est Personne qui m'a crevé l'œil ». Ulysse trouve ça génial. Et souvent, il me dit « Mais pourquoi tu m'as appelé Ulysse ?» Je lui dis « Parce que c'était le bonhomme le plus rusé, qui avait le plus gros cerveau, qui servait le mieux de son cerveau à l'époque. » Alors ça, généralement, il s'arrête, il réfléchit longuement et je vois qu'il se demande s'il sera à la hauteur.
Vous traumatisez votre fils avec l'histoire du cyclope alors que vous êtes un ancien fumeur. Cyclope, fumeur.
Elle est très bien celle-là.
Elle est pas mal, je sais pas, je l'improvise comme ça. On essaye.
C'est du jeter, quoi.
Rien de mieux à vos yeux, littérairement parlant, depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ.
Je lui lis d'autres livres. On lit aussi la saga du loup. Enfin, on a plein de petits trucs. Mais on revient souvent à l'Odyssée. Il aime beaucoup. Ouais. Enfin, moi aussi. Moi, j'y suis revenu. J'ai fait une croisière il y a une dizaine d'années en bateau. On faisait Tour de Corse en voilier. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais emmener l'Odyssée. Et je suis tombé par terre. Ouais. C'est un livre fabuleux. Tout est là, quoi.
Fondamental.
Ouais, il y a tout. Là, il y a même la drogue. Même,
comme par hasard.
2000 ans avant Jésus-Christ. J'ouvre une page au hasard, page 603 de la Pléiade. Et...
Philippe, vous ne pensiez pas qu'on avait attendu les années 60 pour goûter à la drogue?
Non, certes non.
Ah bon?
Mais non. Mais alors, je vous raconterai ça après. Philippe Manœuvre, votre film culte, c'est Mad Max 2, Défi, un film de Georges Miller sorti en 81. Charline, je sais que vous n'avez pas votre permis de conduire.
C'est
vous n'êtes pas tout à fait insensible au cuir. Alors, Mad Max 2, en deux mots, c'est quoi?
Mel Gibson et Max Rockatansky, qui est dans ce western moderne qui est le film. Il rencontre une communauté autonome qui exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max, ce fou, va les aider. This is what it has come to. Oh!
Coming back! Come on, move it! Give me the pump, the gasoline, the whole compound.
This is a land that prays for a hero. Max.
It's a long time since I've seen driving like that, man.
The warrior of the road. Mad Max 2.
Alors, Philippe Manœuvre, je crois que vous l'avez vu 6 fois en salle et 104 fois à la télévision. Question à la Jean-Jacques Bourdin. Mes chiffres sont-ils bons? Répondez, Philippe Manœuvre. Les Français veulent savoir.
Écoutez, je crois que vous avez raison. Donc, sur les 6 fois, il y en a une avec vous.
Oui.
Où exactement. Je vous ai emmené de force un soir. J'essayais d'expliquer à Antoine Decaune la folie de ce film, Mad Max 2, ce que ça portait. Pour moi, je trouvais que c'était un film punk, etc. Et
ça l'était.
Comme Antoine était là, très très dubitatif, j'ai dit, on va au cinéma, on va le voir. Voilà, il était toujours aussi dubitatif en sortant de la salle. C'est pour ça que je me dis, la pop culture, c'est magnifique. Parce que chacun peut construire son truc. Moi, vous voyez, Antoine Decaune n'est pas du tout sensible à mes histoires de Road Warrior.
Si, et de
lignes blanches.
Je suis moins que vous, mais qu'est-ce que vous aimez tellement dans
c'est
Mad Max 2?
C'est un film post-apocalyptique.
On parle de Mad Max 2, hein,
oui,
pas le 1.
Oui, oui, le 2.
Ni le dernier,
ni le Fury Road, ni le 3. Mmh. Voilà. On parle du 2 qui pose le problème de l'essence. Notre civilisation a été construite, basée sur l'essence. Et si un jour, il n'y avait plus d'essence, qu'est-ce qui se passe? C'est la bataille pour un jerrycan de fuel qui devient une espèce de valeur incroyable pour ces survivants, avec leurs puissantes voitures immobilisées souvent. Enfin, donc il y a de la débrouille, il y a de la rouille, c'est affreux, c'est post-atomique. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aimais bien ces situations. Ça a été les premiers à faire ça depuis alors des films Mad Max, à la Mad Max, post-atomique, et même George Miller en a refait un. C'est bien, mais c'est ce Mad Max 2 qui est le fondamental. En plus, c'est une poursuite de diligence pendant la moitié du film. Tout le monde poursuit un camion bourré d'essence. Il y a une surprise finale terrible. Enfin, bon. Et il y a ce bonhomme.
Pas de spoil.
Il y a ce bonhomme, Max Rotakonski, quoi. L'ultime, ce qu'ils ont totalement repris dans Walking Dead. C'est l'idée, c'est un flic. Il était flic dans le passé, la civilisation s'est écroulée. Est-ce qu'il peut continuer à faire son boulot, à faire régner l'ordre, à empêcher le mal? Enfin, donc je trouve que c'est un ressort très très puissant.
C'est un film que vous conseillez à tout le monde.
Mais à tout le monde,
y compris à Serge Gainsbourg, qui a coincé la cassette dans son...
Alors il avait coincé, la cassette s'était coincée dans le magnétoscope et là,
c'est pas un manuel non plus, Gainsbourg.
Durax prend un marteau, il tape sur le magnétoscope.
Qui est le meilleur moyen de le relancer.
Voilà, il appelle le fabricant en disant, venez le rechercher, c'est quoi cette machine, ça ne marche pas. Ouais, c'était...
Alors, pour en savoir plus sur cette petite histoire de Gainsbourg, reportez-vous au livre de Philippe Rock dont nous parlons aujourd'hui. Alors on continue la pop-liste. Philippe, votre série culte, c'est Game of Thrones. C'est une série créée par David Benioff et D.B. Weiss. En 2011, Charline, Ghislain Fontana, notre réalisateur qui souffre de problèmes de transit, passe une grande partie de ses journées sur le trône. Est-ce forcément un jeu?
Non, et c'est d'autant moins un jeu que Ghislain n'est ni un Stark, ni un Targaryen, ni un Lannister, ni un Mormon, ni un Tyrell, ni un Baratheon, ni un Bolton, ni un Drogo, ni un...
Allez, générique. Game of Thrones, d'où vous vient cette passion pour Game of Thrones?
Comme tout le monde, les dragons, les Targaryens, la Khaleesie, enfin voilà, tout est... C'est sexy, c'est un truc sexy qui se passe dans un espèce de Moyen-Âge fantasmé dans lequel les gens sont absolument méchants, odieux, ça se règle à la hache. En fait, franchement, j'aurais pu mettre le Bureau des Légendes, que je trouve la saison 4 exceptionnelle. Je trouve sensationnel qu'une série française aussi bien. J'avais pas vu, j'ai commencé la saison 4. Aujourd'hui, je dirais la saison 4 du Bureau des Légendes est aussi bien. Mais Game of Thrones, ça fait 8 ans qu'on suit ça. On attend la dernière saison qui aura lieu quelque part en 2019. Tout sera révélé. Qui va gagner le trône?
Qui va mourir?
Un pronostic?
On attend cette rencontre entre Jon Snow et la Khaleesie. Est-ce qu'ils vont nous faire un petit... voilà, c'est un peu ça.
Parlez pas de malheur.
Ça a l'air d'être bien parti quand même.
C'est parti pour une saison.
C'est-à-dire qu'elle a passé toute la dernière saison à expliquer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a tellement répété et re-répété que là...
Enfin, on a tout vu. Je trouve qu'ils arrivent à tout faire passer... des dragons, des géants, des morts qui ressuscitent. Et malgré tout, on est là, on est fascinés. Et c'est vraiment ce qui se passe en pop culture en ce moment. C'est l'époque, on définira. On dira, il y a eu les années Game of Thrones, comme il y a eu les années ou David Lynch, Twin Peaks. C'était ça, les grands bornes repérage. Et le feuilleton, c'est là où ça se passe en ce moment. Enfin, moi, j'aurais 20 ans aujourd'hui, je ferais le siège de Netflix. C'est là où on a envie d'être. On se dit, là, ils réalisent des trucs probants, quoi.
Vous êtes quelle maison?
Moi, je suis plutôt Targaryen.
Bien, terminons cette pop liste avec votre chanson culte. Et votre chanson culte, eh bien, c'est celle-ci.
to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate.
Sympathy for the Devil des Rolling Stones, c'est extrait de Beggar's Banquet en 1968. Charline, je sais que vous avez toujours préféré Chardin à Stone, mais quand même, Beggar's Banquet, chef-d'œuvre, n'est-ce pas?
Oui.
Philippe Manœuvre.
Ça manque d'enthousiasme, ce petit oui pincé,
oui,
la bouche en cul de poule. Non. Qu'est-ce qui se passe, Charline?
Ce qu'on appelle du laconisme. Bien, Philippe Manœuvre, chef-d'œuvre, n'est-ce
mais
pas?
Mais oui, chef-d'œuvre. Puis tout l'album est génial, mais cette chanson, elle traverse les époques quand même. Voilà, au début, les Stones, pour les gens, c'est Satisfaction. Tout le monde se lève, on y va, on danse. Après, il y aura Start Me Up, qui a marqué tous les grands concerts des années 80.
Ah, Jumpin' Jack Flash aussi,
Jumpin'
quand même.
Jack Flash, enfin, il y a des Honky Tonk Women, etc. Et puis, il y a Sympathy for the Devil, qui traverse les époques et qui, peu à peu, prend de l'ampleur, s'affirme, devient la grande chanson incontournable aujourd'hui.
Et ce que j'adore, c'est que vous continuez à dire Sympathy for the Devil.
Bah oui, The Devil.
Comme moi, je continue à dire James Brown.
Voilà. Bah oui.
Mais en fait, c'est ce qui nous distingue de tous nos confrères.
On a nos petites prononciations à nous, voilà.
Vous avez droit à ces coquetteries.
On est les Français.
Absolument. Bon, Philippe Manœuvre, je résume l'Odyssée, Mad Max 2, Game of Thrones, les Stones. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
This is what it has come to.
Cette drogue calmant la douleur, la colère dissolvait tous les maux. Une dose.
Winter is coming.
Greetings from the Among Us.
In a world without gas.
The Among Us rules the wasteland.
I'm greatly disappointed.
Quand bien même il aurait perdu ses pères et mères.
Mad Max 2.
Voilà, du Philippe Manœuvre pressé comme un vinyle, non?
Ben oui, ben je trouve ça bien, ça résume, c'est pas mal, un peu trop d'anglais pour moi peut-être. Là maintenant, je me dis, ça manque de langue française, tout ça.
Bon, ben, on va continuer l'émission en français, alors. Philippe Manœuvre, impossible de ne pas parler de Johnny Hallyday, justement, dans ce pop-pop-pop spécial rock. Alors, si vous voulez bien, écoutons-le avec un extrait de son dernier album posthume, Mon pays, c'est la Hamur, avec ce morceau, Back in L.A.
I want you back in LA.
Johnny Hallyday, back in LA sur France Inter dans ce pop-up rock en compagnie de Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, alors vous publiez Rock, votre autobiographie éditée chez HarperCollins. Pourquoi rock plutôt, je sais pas moi, que donne-moi ta main et prends la mienne, mais oui, l'école est finie.
Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Vous avez encore un problème de sonotone, il est mal réglé, vous n'avez pas changé les piles?
Mais non, problème non, de... non, c'est juste que sur la quatrième de couve, il est précisé à lire très fort.
Ah.
Ben, non.
J'ai pas pu m'empêcher, non mais ça me fait plaisir d'être là avec Antoine, parce qu'Antoine c'est un des premiers qui a dit ce Johnny Hallyday, c'est un rocker, il a aucune direction, mais si on le mettait avec des bons musiciens, et c'était toute l'idée, Antoine, pour les enfants du rock, avait emmené Johnny à Nashville avec Tony Joe White qui nous
Tony
a quittés ce week-end. Avec Carl Perkins, les Stray Cats, enfin
Emilio Harris, les Everly Brothers.
Tout le monde était là, quoi, pour redonner à Johnny une aura américaine, dire voyez, il peut tutoyer les géants du rock anglo-saxon, il y a aucun problème. Et c'était une émission formidable.
Mais enfin, son manager, dont il parlait dans le livre, n'était pas d'accord, lui.
Voilà, le manager,
Jean-Claude Camus qui nous écoute.
Ouais, Jean-Claude Camus, lui, il n'avait pas du tout envie que ça se passe rock. Voilà. Il n'était pas pour. Et dès l'émission a été diffusée, je crois, le mercredi soir, et le samedi midi, Johnny faisait un duo avec Sheila à la télévision. Il chantait « Mon petit loup, ça va faire mal ce soir ». Et tous les rockers qui avaient eu un espoir fou pendant 3 jours se disaient « ça y est, c'est reparti, les vaches maigres ».
Alors qu'il aurait dû chanter « Ma petite louve ». Bien, ce mot rock, ce qui revient 285 fois dans le livre, enfin selon la préfecture. D'ailleurs, je reprends mon jingle flippant du début d'émission pour vous poser une question. Pour vous, Philippe Manœuvre, c'est quoi aujourd'hui le rock?
C'est une musique du XXe siècle, voilà, qui essaye de se frayer un chemin dans le XXIe. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens sur le coup, là. C'est sûr que quand le rock est arrivé...
Il y a beaucoup de hip-hop aussi, surtout.
Voilà, aujourd'hui, il y a une montée. Les maisons de disques préfèrent signer des hip-hoppers. Il n'y a pas eu de groupe de rock signé depuis très longtemps. Les derniers signés en France, c'est Bébé Brune, c'était il y a 11 ans. Donc, 11 ans sans un nouveau groupe, vous êtes sûr, l'industrie, là. Alors bon, c'est nos meilleurs ennemis, les maisons de disques, mais là, elles font pas d'efforts. Le rock, pour eux, c'est de la réédition.
Mais alors justement, si je vous demande qui représente le rock aujourd'hui, que ce soit à l'international comme en France.
Il y a les Lemon Twigs, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a plein de nouveaux artistes. Il y a VOC, il y a Jaco Gardner, il y a plein. Il y a les Liminanas de Perpignan, qui sont un groupe fait par d'anciens disquaires, qui, moi, me satisfait totalement. Ce qu'il n'y a pas, c'est la profusion qu'on a eue à une époque. À une époque, on aurait dit, il y a 40 groupes signés chaque année, là... plus un depuis 10 ans. Donc on fait avec ce qu'on a.
Mais Inspecteur Clouseau,
les rockers ruraux.
J'habite un peu
à la campagne maintenant. L'autre jour, je faisais du vélo dans la campagne. Vous voyez, je suis Antoine Decaux dans tout. Maintenant, moi aussi, je fais du vélo.
Il a arrêté.
Je me suis mis à la drogue.
Enfin, je faisais du vélo dans la campagne, j'arrive vers une grange, j'entends un barouf, pas possible, je descends, je m'approche, et c'était des types qui jouaient « I Can Quit You Babe » de Otis Rush dans leur grange, c'était sensationnel. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de groupes de rock qui ne seront jamais connus, qui s'éclatent dans leur province, les gens vivent bien, ils font de la musique le week-end, c'est ça la différence. Nous, quand on est arrivé, il y avait 2 guitares électriques en France, une chez Johnny Hallyday, une... dans un studio, c'est tout.
Chez Dick Rivers. Philippe, les rock critiques ont tous leur spécialité. À Dordor et à Bloom, le reggae. À Beauvallet, l'Angleterre. À Christophe Comte, Étienne Dao et la pop anglaise. À Chalumeau, la country music. Vous, au fil des années, vous êtes resté 100% rock ou bien vous avez aussi élargi le spectre?
Les gens essayent de savoir. Et si j'écoute du jazz, la réponse est non. Si j'écoute de la musique classique, jamais. Plutôt à mon enterrement. Et puis, je suis resté rock. Ouais, je suis resté rock. Mais avec des incursions dans la country, un peu comme Chalut Max, notre maître. Il m'arrive le soir d'écouter des Willie Nelson, du Merle Haggard, David Alan Coe étant mon favori quand j'écoute The Ride. Alors ça, c'est vraiment, je trouve ça fabuleux, quoi. Ça, c'est des bonhommes tatoués dont on n'a jamais entendu parler, qu'on fait 15 albums hyper bien. Il y a des petits tubes, il y a des chansons. Johnny Hallyday, les dernières fois que je l'ai vu, écoutait énormément de country aux États-Unis.
Il a toujours écouté beaucoup.
Il adorait ça parce qu'il trouvait que c'était des chansons. La bonne femme, elle dit mon mari s'est cassé, elle pleure, quoi, c'est vrai, elle trouve les mots. Et lui, c'était ça qui l'intéressait.
Est-ce qu'il y a un genre musical qui vous hérisse?
Pas non, pas vraiment, non, non, pas du tout. J'arrive à, bon, la musique balinaise, les gammes qui fréchapent.
Tout de suite les extrêmes.
Toujours, les gammes chinoises, c'est de la gnognotte. Si, à la gamme chinoise, c'est à foutre à la poubelle.
Moi, j'ai une question.
Que pensez-vous de l'autotune? Pourtant, j'en rafale et je pense même proposer à Booba de faire un feat avec lui.
Ça vous plaît, l'autotune?
Non, l'autotune, c'est ce qui est arrivé de pire à la musique. Hein. Malheureusement, c'est horrible. Quand je parlais avec Geoff Emerick, qui était l'ingénieur du son des Beatles, et lui
magnifique
me disait,
livre de Geoff Emerick.
Ben oui, où il raconte comment il a enregistré les singles et les albums des Beatles. Et ben, il nous a quittés il y a 15 jours, Geoff, mais il me disait, l'autotune, c'est ce qui est arrivé de pire à la musique avec la cocaïne. Lui, il disait, les deux trucs ont été affreux. Ça a tout raidi, tout desséché. D'un seul coup, c'était plus besoin de savoir chanter juste. Qu'est-ce que ça, si un chanteur, il n'y a plus besoin de savoir chanter juste, alors là, non, quoi.
Rock, c'est un roman autobiographique, hein, que je vous cite. Pourquoi roman autobiographique plutôt qu'une autobiographie tout simplement? Ou plus exactement, où se trouve la ligne de démarcation entre le roman et l'autobiographie?
Alors, si j'avais écrit mon autobiographie, d'abord, on ne serait pas là en train d'en parler. Je serais toujours chez moi en train de gratter. J'aurais mis 5 ans à la faire. Elle aurait fait 890 pages. Et je pense que ça aurait été très indigeste parce que un jour, j'avais un journaliste qui s'appelait Nick Kent, qui est suprêmement intelligent, magnifique, journaliste anglais. Ouais. Je lui avais dit, mais comment tu fais quand tu écris la story de Mick Jagger? Toi, c'est génial, on s'embête pas, c'est toujours excitant. Il me dit, parce que des fois, même Mick Jagger, il y a 4 ans où il se passe rien. Ces années-là, je les fous à la poubelle. Mmh. Je vais d'un endroit, des pics, à un cap. Je raconte pas
l'entre-deux,
les bagarres internes, les trucs. Je garde que les moments éclatants où il se passe un truc définissant pour le personnage. Bon, je me suis dit, toute proportion gardée, et si j'essayais ça,
appliquons
quoi.
Ça, bien sûr.
Voilà, parce que sinon, il y a des années terribles, il y a 10 ans où je suis à Canal Jimmy, je me lève le matin, je m'habille, je vais à Canal Jimmy, je récite mes textes devant une caméra, je rentre chez moi, j'écris d'autres textes, je retourne les réciter. Ça intéresse personne. C'est les mines de sel de la télé. Donc, je me suis dit, restons, essayons de raconter ça d'une façon excitante. T'as pas le droit d'écrire un bouquin qui s'appelle Rock, et où les gens disent, oui, j'ai du mal à finir un chapitre, ou, ah, ça me tombe des mains. Non, surtout pas, c'est pas possible, c'est le rock.
Philippe Manœuvre, ce qui vous a donné envie de parler du rock, c'est ça. Il est pris de spasme.
Ah ben voyez, il y a quand même un style musical qui vous hérisse.
L'accordéon, c'est vrai. Et pourtant, quand je suis allé en Louisiane,
on parle de la France des années début des années 60.
Début des années 60, hein, l'accordéon,
donc,
le roi,
la musette ou la chanson française de qualité, comme on disait à l'époque. Et le rock arrive, et pour vous, c'est l'alternative évidente.
Ah bah oui, d'un seul coup, on entend les guitares électriques. Nous, les jeunes, on se dit, ça y est, c'est ça, quoi. C'est ça qu'on voulait. Enlever l'accordéon, brancher les guitares. l'accordéon, après, j'ai changé d'avis. Quand je suis arrivé en Louisiane, il y a des accordéonistes cajuns qui font un boucan incroyable, qui font de l'accordéon rock. Mais ça, c'était plus tard.
Il n'y a pas que la musique dans rock qui a votre enfance, vos multiples expériences et vie professionnelle, et notamment celle d'éditeur avec Speed 17. Vous avez signé Bukowski, Hunter Thompson et Hubert Selby Jr. Est-ce que dans votre panthéon perso, ça vaut autant qu'une interview avec Jagger ou Iggy Pop?
Bien sûr, ben oui, mais j'étais sûr de... Bukowski, c'était une bataille. Il fallait présenter Bukowski à la France. Moi, Philippe Garnier m'avait montré les premiers bouquins de Bukowski. On a traduit Notes of a Dirty Old Man en Mémoire d'un vieux dégueulasse. C'est sorti en 77, année punk. Ça a pris comme de l'essence jetée sur le feu. Hein. On a vendu incroyablement vite. En plus, il est venu à apostrophe. Il a fait un scandale pas possible en buvant du Chablis. Cavana avait dit, Bukowski, je vais te péter la gueule. À la fin, Cavana... Moi, j'ai eu mon épiphanie quand Cavana a dit, de toute façon, ce que j'aime chez Bukowski, c'est pas Bukowski, c'est les traductions de Philippe Garnier. Là, j'avais mon orgasme dans mon canapé. Merci, Cavana, quoi. Merci à ces gens incroyables.
Philippe, toutes ces histoires, on les retrouve évidemment dans votre ouvrage Rock, édité chez HarperCollins. On a encore plein de choses à vous demander. Je pense qu'une heure n'y suffira pas, hélas. Mais pour l'instant, on va revenir à cette conversation. Pour l'instant, c'est le moment des pop news. Est-ce que vous savez faire ça?
Bah oui.
Allez-y.
Bah pourquoi?
Allez. Bah bravo. Et bah voilà, ça lance les pop news.
Depuis mercredi, dans les salles obscures, Bohemian Rhapsody, plus ou moins biopic de Freddie Mercury. Et à cette occasion, diverses initiatives fleurissent un peu partout, hein, parmi les fans et les autres. De Carnaby Street, redécoré à Londres, aux avant-premières à Moustache. Et notre préférée est celle de la chaîne YouTube 10 Seconds Song, qui reprend une chanson, en l'occurrence de Queen, à la manière d'autres artistes. En l'occurrence, dans cet extrait, Johnny Cash, David Bowie, Ozzy Osbourne. C'est parti pour Bohemian Rhapsody.
Mama, just killed a man.
En tout, 42 styles explorés, façon Joplin, McFerrin, Hendrix, Daft Punk, Sinatra, Sam Cooke, Kendrick Lamar, et même un petit break à la System of a Down. L'intégralité est à retrouver sur la chaîne YouTube 10 Seconds Song.
Nathalie Portman dans le rôle d'une méga pop star avec son lot de galères hauts et bas et événements traumatiques. C'est le pitch de Vox Lux dans lequel la comédienne incarne Céleste, grandeur et décadence d'une star sur 15 ans.
So tell me, how many of you have cried yourself to sleep at night? People have been trying to take me down for years. But I won't stay down.
Celeste, come on. Everybody's downstairs.
Dans le rôle du manager Jude Law, le film est réalisé par Brady Corbett et la BO est signée Sia. Et plus étonnant, Scott Walker.
Et je profite de votre présence, Philippe Manœuvre, pour présenter et soumettre à votre approbation, évidemment, un petit groupe gallois, comme on les aime. Ils sont quatre, majeurs depuis peu. Ils se sont fait repérer en 2015 avec quelques EP et reviennent aujourd'hui avec un titre annonçant un premier album. Il s'appelle Pretty Vicious. Ce titre, c'est Are You Entertained? En ce qui me concerne, la réponse est oui. Et vous, les patrons?
Oh bah, ah oui, ça a l'air bien, ça a l'air frais, dynamique, un peu Arctic Monkeys, voilà.
Arctic Monkeys, le mot magique à ne surtout pas prononcer en face de Charline Roux. Mais oui, ça y est, regardez là. Regardez là.
On peut pas? Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Casimir?
Un petit peu. Bravo Charline. Philippe Manœuvre, ce pop-up spécial rock continue juste après un morceau des Stooges pour vous faire plaisir, mon cher Philippe.
C'est gentil.
Attendez, si je vous demande si vous aimez les Stooges, vous répondez bien sûr...
Ah bah oui.
Non, vous répondez, est-ce que le pape est catholique? Bah oui. Enfin Philippe.
Vous voulez que je vous le dise?
Oui,
alors,
dites-moi.
On recommence.
Si je vous demande si vous aimez les Stooges, vous répondez bien sûr...
Est-ce que le pape est catholique, Antoine?
Voilà, le gimmick de vos mémoires. Alors voilà, vous le savez, les Stooges ne sont pas hyper France Inter compatibles, on va dire. Ils sont rarement joués ici entre Benabar et Vincent Delerme, mais j'ai trouvé une version alternative de Gimme Danger qui va plaire aux oreilles les plus France Interiennes.
Breathe. Hey!
Les Stooges avec la version alternative de Gimme Danger, extraite de Raw Power, une version quasi unplugged, hein,
ouais, d'une certaine manière. Sur laquelle le guitariste James Williamson fait un de ses plus beaux solos.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Manœuvre pour parler de rock, ses mémoires, allez.
Allez, appelons osons, ça des mémoires. N'hésitons pas.
Aux éditions HarperCollins. Votre éditeur d'ailleurs parle de vous en disant que vous êtes le Tintin du rock. Alors, un Tintin qui a quand même testé du crack, des acides, de l'héro, qui a écouté autre chose que la Castafiore, non? Et oui. Si vous êtes Tintin, qui est Milou d'ailleurs?
Voilà, c'est ça. Le comparse à quatre pattes, je sais pas, mais c'est...
Pas oui, forcément alors, à quatre pattes, hein.
Bah, être dans le rock à l'époque, enfin, franchement, il y avait une présence de ce qu'on appelait les drogues. Ouais. Moi, je dis toujours, si pour interviewer Neil Young, il fallait fumer un pétard avec lui avant, bring the pétard. On n'était pas là pour se tomber par terre et dire, oh, les étoiles, machin. On fumait à deux, trois lattes pour se mettre bien avant de faire une grande conversation. On allait parler de rock, de son album, de tout. C'était comme ça, ça allait avec le paysage.
Ça n'a jamais altéré la qualité de vos interviews?
Non, les interviews, je crois pas, non, parce que...
Parce que moi, j'ai le souvenir d'interviews avec des Jamaïcains qui étaient assez costauds, quand même. On appuyait sur play record et puis après, on vérifiait le résultat.
Ouais, non, mais oui, alors les Jamaïcains, c'était un autre problème. Ils utilisaient la drogue, l'herbe, comme un espèce de sacrement pour être rasta. On avait découvert ça pour devenir... Rasta, il fallait fumer un grand pétard qui vous donnait d'herbe, rester debout pendant 3 heures, pendant qu'on vous parlait de la Bible, en vous disant comment commenterais-tu cette phrase de l'Ecclésiaste, etc. Bon.
Philippe, dans Rock, vous dites, le rock c'est fait pour obtenir une réaction. Vous vous souvenez de la première et de la dernière réaction que le rock vous a procurée?
Ça me procure, moi, des réactions de bonheur. J'ai l'impression que j'ai de l'adrénaline pure dans les veines quand j'écoute du rock bien fait, comme cette chanson de Johnny, la Back in L.A., je sais pas, elle me donne la pêche. Elle me donne envie d'en découdre, de rêver des choses que je ne devrais jamais faire, d'aller à la... Comment un gamin de Chalon-sur-Marne se retrouve à la télé?
Mais c'est ça, j'ai l'impression d'entendre le Philippe Manœuvre de 13 ans qui
mais
découvre
je
les
suis toujours le Philippe Manœuvre de 13 ans que vous avez connu, Antoine. Les femmes, les divorces, la cocaïne, tout est passé sur moi, je n'ai pas changé.
Votre premier concert, c'était lui.
I'm Karim, cherche cœur libre tous les jours.
Michel Polnareff.
Ah Michel, c'était...
Alors ta première réaction.
Alors, je dis à Polnareff, tu sais que le premier concert que j'ai vu, j'avais 14 ans, c'était à la Maison de la Culture de Reims, André Malraux, ma mère m'amène avec mon frère, on voit le concert, et elle me dit, pourquoi t'es pas venu me voir backstage? Ça c'est Michel. Je lui dis mais qu'est-ce que j'aurais dit plus tard on va se connaître. Oui, enfin bon, mais bon. Michel Polnareff, c'est un mystère pour moi. Comment ce mec qui arrive tout seul en 67, qui fait des chansons totalement au niveau des anglo-saxons. Ouais, lui, il arrive tout à fait au niveau avec Jimmy Page qui l'aide à la guitare sur I'm Calling ou sur Sous quelle étoile, etc. Et qui va subir toutes les transformations de l'industrie du disque. Enfin, il faut, ce mec est le plus grand mélodiste, sans doute, qui nous reste.
Ouais.
J'attends son album. Je dois dire, là, l'album qui va sortir en novembre, je suis dans les starting blocks.
Vous êtes déjà tout fébrile.
Ah, mais je suis fébrile, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il nous a fait, parce que son dernier album, date de 1996.
Ah,
on est en 2018.
Il a eu le temps de se concentrer. Ben.
Ah, ouais.
Bien, après Polnareff, eh bien, il y a eu ça. Les Stones, donc, avec
Stones.
Let's Spend the Night Together.
Par voie de 45 tours.
Et puis, seconde réaction, une réaction qui surpasse la première?
Bah, dès que j'écoute, je me dis, voilà, c'est ça, quoi. C'est le truc, c'est ça qu'on attendait. C'est les chansons, ils sont pas dupes. Il y a un petit côté, il y a une ironie quoi avec les Stones. C'est des gamins anglais blancs qui jouent du blues noir américain. Ils sont pas dupes, c'est pas possible quoi. Ils m'ont vraiment les Stones. Puis après il y a eu le Velvet qui est arrivé en 71. Ça aussi c'était un grand moment, une épiphanie, un truc.
Et puis le Velvet, mais il y a aussi une chanson que vous aimez par-dessus tout, c'est celle-ci.
Alors, ma première grande surprise à moi, quand j'arrive, c'est de découvrir qu'il y a de la pop en France, il y a des gens qui font cette variété, comme on appelle, moi j'appelle la pop. Il y en a beaucoup qui se droguent encore plus que les rockers et il y en a qui font des ce I Love America. C'est Patrick Juvet. Patrick Juvet vas au studio d'Hérouville, il reste un an enfermé en studio et il sort un morceau de 26 minutes qui s'appelle I Love America où il fait de la country disco. À un moment, il dit I Love Country Music, il fait de la country disco pendant 3 minutes. Je dis, mec, qui a eu l'idée de faire ça? Il passe en revue toutes les musiques américaines sur ce disque. Enfin, moi, je dis, c'est monumental. C'est un truc de dingue. Bon, ils ont eu Brian Wilson. Nous, regardez, on a Patrick Juvet, qui a quand même ce truc incroyable produit par Bellolo et Morali. Enfin, je trouve ça étonnant.
Vous êtes donc fan de Patrick Juvet, mais savez-vous que c'est réciproque? Il y a une vidéo qui traîne en ce moment sur YouTube, oui, où on voit Patrick Juvet en train de se caresser en disant rock. Vos mémoires, Philippe Manœuvre. Bon, vous écoutez Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite toujours la culture de façon. Oh, et nous sommes donc en compagnie de Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, vous savez qu'on arrive à la fin de cette émission. Nous sommes vendredi et c'est le moment pour moi d'aller chercher à la cave la cassette du grand n'importe quoi, le magnéto d'Alexandre Véret, pour qu'on l'écoute ensuite ensemble. Allez, j'y vais. Y a quelqu'un là? Oh! Allez, viens Henri. Merci mon petit Henri. C'est Henri, c'est mon cochon. Hein. Merci de m'apporter de la cassette. Voilà, tiens, prends une petite croquette. Tiens, tiens. Voilà. Allez, on écoute ensemble.
Magnifique pied dessus dessous, suivi de pas chassés de face et d'une arabesque cambrée.
C'est de toute beauté. On sent que l'entraînement de Maclie Fiski porte ses fruits.
Mais attention, voici que Natalia Karopichka fait son entrée sur le terrain.
Ouh là là, quelle prise de risque!
Effectivement, c'est le grand écart. Mais c'est dommage, j'ai raté.
N'importe quoi.
C'est un feu, commandant! Il y a des brocolis ce midi à la cantine!
Ping-pong, circulate!
N'importe quoi.
Dis-moi, Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu t'es transformé en tigre?
Ah oui? Ah déjà, hein? Ça passe vite!
N'importe quoi.
Tu sais, on ne peut pas revenir sur le passé, non? On ne peut pas. C'est impossible. Yes. Tu sais, on ne peut pas revenir sur le passé, non? On ne peut pas. C'est impossible.
Over. Le grand n'importe quoi, c'est signé Alexandre Véret, c'est tous les vendredis dans Pop. Mais attendez, mais ça s'est rempli. Si, il y a plein de monde là.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, les Stones? Oh non! Dans ma cave? Oh, mais putain, mais truc de ouf! Philippe, vous voulez venir écouter les Stones?
Oh oui, Antoine!
Venez me retrouver! Les Stones, depuis la cave de France Inter, avec Philippe Manœuvre et le morceau Brown Sugar en live! Allez-y, les gars! Keep rocking!
Oh,
Les Stones depuis la cave de France Inter avec ce morceau Brown Sugar en live. Philippe Manœuvre, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous y laisser ici?
Une paire de Ray-Ban Wayfarer, Antoine. Ah. Souvenez-vous, ces lunettes que vous nous rameniez de
mais
New York.
Oui, à l'époque des Blues Brothers.
Prince Street, à l'époque des Blues Brothers, avant que Ray-Ban s'aperçoive qu'ils avaient ça et les rééditent. C'est Antoine qui a été le premier pour tous les enfants du rock. Il allait à New York, il ramenait les paires de lunettes Ray-Ban.
J'allais juste pour ça.
Les temps ont changé, hein.
Les temps ont changé, hein. Maintenant, les Ray-Ban sont fabriqués en Italie. Antoine a des verres correcteurs. Moi-même, peut-être aussi. Et j'entends encore de l'oreille gauche, plus très bien.
Bon, je garde ces lunettes, ces Wayfarer dans ma cave. Merci. Merci infiniment, Philippe
Manœuvre. Merci Antoine et Charline.
Merci d'être venu passer cette petite heure avec nous. Rock, c'est édité chez HarperCollins et c'est un rock qui est plus que chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Clément Nouguier à la réalisation, à la technique Patrick Henry, récemment libéré, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Mathilde Verfailly, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. On se retrouve lundi dans Pop Pop Pop, bien sûr, mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Patrick Juvet à la fin de ses tutos Régicolor sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
C'est Stéphane Echer, ça.
Non, il est un peu suisse. Patrick Juvet, je suis désolé. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.